Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici. Ça part ici.
Dernière fin de semaine complète de mai 2024. Ici Alex Baillargeon et bienvenue à la 299e édition du deuxième service du Réchaud. Et oui, 299, deuxième service pour 429 réchauds. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFA, 88.3 à Sherbrooke et de Chiz, 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées, avec Baillargeon au micro. Cette semaine encore, dernière. Fin de semaine complète de mai, comme je le disais. C'est fête! On peut dire ça comme ça. La 300e à célébrer la semaine prochaine. Tranquillement, pas vite. On s'en va vers la période des vacances. On s'en va tranquillement, pas vite. Vers les fins de session parlementaire, autant à Québec qu'à Ottawa. Commence à être temps. Que la fin arrive, on commence de plus en plus à, à manquer de patience. Pour être poli dans ce cas-ci, manquer de patience. Un qui a manqué de patience et qui n'a pas été poli, c'est Francis Drouin. Avec ses propos vulgaires. On l'aura jamais vraiment défini. Est-ce que c'était une mauvaise traduction ou une véritable insulte pour ces universitaires qui n'ont pas nécessairement le domaine d'études approprié pour parler de francophonie, qui ont interprété des chiffres à leur manière et qui se sont fait traiter de plein de merde? Évidemment! Les conservateurs voulaient la tête de Francis Drouin. Le Bloc aussi un petit peu. Jouer les vierges offensées, ça va. Il osait insulter des Québécois, ça n'a pas de sens. En même temps, l'un des deux chercheurs, Frédéric Lacroix, a dit que bientôt, le français québécois blanc serait en voie de disparition à cause du grand remplacement. Fait qu'on peut pas nécessairement y donner tous les points à ce gars-là non plus. Fameuse théorie du grand remplacement qu'il n'y aura plus de Québécois blancs de souche à cause de l'immigration et tout ça. On n'en parle pas beaucoup de ce bout-là de Frédéric Lacroix, mais bon, ça fait partie quand même de son passé. Et malheureusement pour les conservateurs, ils n'auront pas la tête de Francis Drouin puisqu'il conserve son poste de président de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est une bataille qui devait être faite, une bataille de principe. On ne peut pas tolérer qu'un président ait ce genre d'agissement. On a manifesté notre désaccord, a déclaré le bloquiste René Villemure. À la presse canadienne, Villemure s'est félicité d'être allé jusqu'au bout du raisonnement, soit jusqu'à ce qu'un vote qu'on ne pouvait pas gagner, étant donné que l'association était noyautée de libéraux. Ce sont ses mots. Parce que dans les dernières semaines, pour ce vote, en prévision de ce vote, il y a quelques députés libéraux qui se sont joints à cette commission, qui ont participé au processus de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour ne pas faire en sorte que Francis Drouin soit destitué de son poste. Le député de Glengarry Prescott Russell était en désaccord avec l'interprétation des données exposées par les témoins devant le Comité des langues officielles sur l'influence qu'a la fréquentation d'une université ou d'un cégep anglophone sur l'anglicisation. Les chercheurs regardaient les chiffres en disant « Ah ben là, parce que le monde va dans des universités anglophones, ils vont obligatoirement parler anglais par la suite. » Ce qui est évidemment faux, puisque nous avons bon nombre de gens qui ont peut-être étudié en anglais, mais qui ont tout de même vécu en français au Québec ou ailleurs dans la province. Donc, ce n'est pas vrai que parce que les études sont obligatoirement en anglais, que cette cause fait en sorte que l'on vit en anglais. C'est sûr que ça aide. Si le milieu de l'emploi, si le niveau d'études, etc., se passe tout en anglais, c'est sûr qu'on va avoir tendance à vouloir rester en anglais. Mais comme justement pour des franco-ontariens, probablement comme Francis Drouin, qui ont fait leurs études en Ontario, qui devaient être quand même en anglais, ben de dire qu'à cause de ça, il devrait parler en anglais ou de dire qu'il est l'exception à la règle que normalement tout le monde devrait parler anglais parce qu'ils ont fréquenté une université anglophone, ça devient un petit peu compliqué. Certains chiffres vont dire que oui, il y a une tendance à ce que l'anglais prédomine. Mais ce n'est pas systématique, comme le disaient les deux chercheurs, en disant que obligatoirement, ça faisait en sorte que le français diminuait dans le pays au complet parce que des universités anglophones. Fait que bon, ça devient un petit peu exagéré. Une règle qui est non écrite au Parlement, c'est que nos bisbilles internes restent à l'interne. Puis on n'amène pas ça sur la scène internationale et pour moi, c'est une question de principe. Étant Francis Drouin, président de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais également président à l'échelle internationale. Donc, on ne voulait pas qu'on pense que ce qu'il avait dit, ces deux personnes-là en particulier, allaient pouvoir se répéter lors d'une assemblée générale, par exemple. Sa collègue députée d'Ottawa, Vanier, Mona Fortier, a raconté que le résultat a fait son bonheur. Francis s'est excusé, un franc défenseur, promoteur de la francophonie. Donc, pour moi, ça me rend contente de voir qu'il va continuer à faire son travail. Bon, ben tout est bien qui finit bien au fédéral. Effectivement, à la base de tout ça, on n'insulte pas les gens, même si on retire les propos 3 secondes après. Parce qu'on n'est pas content de la réponse qu'on se fait donner. C'est sûr. Est-ce que tout est prétexte à faire un scandale avec ce qui se passe en ce moment? Évidemment. D'où, justement, le besoin de vacances, probablement, en fait, pour tout le monde, dans les assemblées, quand ça se crie des mots, quand ça se dit des choses méchantes. Autant au Parlement que sur les réseaux sociaux. Les vacances commencent à sonner. Et quand on est rendu que Chrystia Freeland rit du fond de teint de Pierre Poilievre, c'est parce qu'on a besoin de vacances à un moment donné. Là. On a fait le tour, mettons. Parce que pour l'anecdote, ça faisait rire Chrystia Freeland que Pierre Poilievre avait son petit fond de teint cette semaine à l'Assemblée. Quoique son ton s'est effectivement adouci là, depuis justement son épisode de Wacko et d'avoir été mis à l'écart. Il y a tant, en tout cas, il baisse le volume, du moins les extraits qu'on voit de lui récemment sont un petit peu plus posés. Peut-être qu'il s'est rendu compte que d'avoir l'air d'un enragé, ça n'avait pas de bon sens. Mais ses propos ne restent pas pour autant plus acceptables non plus. Quoique, de faire rire de lui pour son fond de teint, c'est un peu étrange. Mais l'anecdote était quand même drôle que Chrystia Freeland trouvait ça drôle que il portait plus de fond de teint qu'elle. Enfin bref. Autre son de cloche, cette fois-ci du côté québécois, ben c'est la soudaine humanisation de la CAQ. Peut-être qu'eux autres aussi se sont rendus compte que de dire aux autres de s'acheter des blocs s'ils n'étaient pas contents du prix du loyer, c'était peut-être pas le best. C'est peut-être pas le meilleur. Cette semaine, en fait, après la tentative de « je vais changer, je vais travailler sur moi », je vais suivre une formation pour être plus sensible, ce genre de niaiserie-là. France-Hélène Duranceau est revenue dans l'actualité avec un nouveau projet de loi. Donc, soudainement, elle a voulu faire sa propre version du projet de loi Françoise David. Donc, elle veut maintenant empêcher. En fait, depuis qu'elle a déposé, il est maintenant impossible pour un propriétaire d'expulser un locataire de 65 ans et plus, si ça fait plus de 10 ans qu'il est dans son logement, pour des raisons aussi étranges qu'on veut rénover la salle de bain et on reloue le dit logement 500$ plus cher lorsque les rénovations, pour ne pas dire rénovictions, sont effectuées. Mercredi, dépôt d'un bref projet de loi qui impose un moratoire de 3 ans sur certains types d'évictions, lesquels répond aussi en partie à la demande de Québec Solidaire d'abaisser de 70 à 65 ans l'âge des locataires moins fortunés ne pouvant pas être évincés par un propriétaire pour des raisons injustifiées ou injustifiables. Il faut sauver la soldate Duranceau, comme l'écrit José Legault dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, soudainement, France-Hélène ne fait pas que détruire la cession de bail, mais empêche maintenant les personnes plus âgées de ne pas se faire mettre dehors de leur logement. Comme ce projet de loi-là a l'ambitieuse tâche d'être approuvé avant le mois de juin, avant début juin, où justement le Parlement sera mis sur pause pour l'été, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire. Ben, en plus, avec l'appui de Québec solidaire en face, parce que justement, Québec solidaire avait certaines demandes dans cette lignée-là, qui ne se retrouvaient pas dans le premier plan de France-Hélène Duranceau de couper les bails, mais qui se retrouvent maintenant dans ce petit projet de loi, le projet de loi 65, ça donne du biais, 65 ans. Lorsque cette annonce a été faite, Québec solidaire s'est levé pour applaudir l'initiative de la soldate Duranceau. Donc, et de toute façon, vu que la CAQ est déjà majoritaire, avec maintenant 88 députés, ça allait de soi que ça allait être passé. Mais là, déjà qu'on a en plus l'appui de la dizaine de Québec solidaire, ah ben là, on a encore plus l'unanimité. Surtout qu'un groupe d'opposition est pour. Les libéraux disent attendre de lire le projet de loi et le PQ bougonne dans son coin, là, c'est pas clair. Ben, ça a quand même donné droit à Joël Arsenault très... je sais pas, il était pas content, il était frustré, puis Paul Saint-Pierre a été obligé de réagir à côté de lui en disant, ben regardez, si Québec solidaire fait un bon coup, ben bravo Québec solidaire, là, t'sais, en voulant dire, oui, les autres partis aussi sont capables de faire des choses, là, calme-toi Joël, fait que ça c'est un drôle de moment. Paul Saint-Pierre qui dit bravo QS si ça marche. Mais voilà, donc on tente d'adoucir la CAQ un petit peu, en passant entre autres par France-Hélène Duranceau. Donc soudainement, ce n'est plus qu'il s'achète de la brioche. Là. C'est correct, vous allez pouvoir ne pas être évincé, genre de 65 ans et plus. Donc plus besoin non plus de vous acheter vos propres logements pour décider vos propres règles, comme elle l'avait dit. La ministre Duranceau justifie son nouveau projet de loi en répétant qu'elle est une cartésienne qui analyse et réfléchit. Ce qui fait poser des questions. Si elle était si cartésienne, elle aurait pourtant imposé son moratoire bien avant, tout comme elle n'aurait jamais retiré aux locataires leur droit acquis à la cession de bail, que souligne à nouveau José Legault. Mais là, soudainement, parce qu'on est dans une tentative, c'est ça, de réhabiliter France-Hélène. Ah ben là, la CAQ travaille pour ses concitoyens. On est proche de la population. Nous voulons aider la population. C'est pas vrai qu'on est juste un parti pour les locataires, mais aussi pour les locataires, etc., etc. Donc, tentative de la CAQ de redorer son blason. On verra si réellement ça peut se concrétiser, parce que techniquement, déposer un projet de loi et que ça soit réglé en quelques jours, ça se peut, ça se fait. Restera à voir si la volonté y est, évidemment. Mais techniquement, c'est rétroactif. Donc, depuis mercredi, cette semaine, les propriétaires n'ont plus le droit d'expulser, sans raison ultra justifiée, un locataire de 65 ans et plus, à faible revenu, et qui est dans son logement depuis plus de 10 ans. Parce qu'évidemment, on s'est posé la question, est-ce que des propriétaires vont soudainement se trouver des envies de rénovation dans ces logements. Oh, pardon. Dans ces logements-là. J'ai un hockey qui dure depuis hier, puis là, ça risque d'être dur pour le reste de l'émission. Mais non, ce n'est pas possible juste depuis ce mercredi. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite, je l'espère, de ce deuxième service, vous écoutez. Le 88.3 CFAQ et Chiz 94.3. De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Oh, ça va être compliqué, je m'excuse à l'avance. Développement qui a eu... du côté de Québec. On l'avait vu, ben en fait... Je m'excuse vraiment beaucoup. Cette semaine est apparue les conclusions de l'enquête sur le cardinal Lacroix. Le Vatican a décidé de blanchir le cardinal québécois. Et, bon, voilà, Gérald Cyprien Lacroix était visé par une action collective intentée contre le diocèse de Québec en lien avec des gestes à caractère sexuel ne sera pas visé par des procédures canoniques à la suite d'une enquête du Vatican. Le pape François avait mandaté le juge québécois à la retraite, André Denis, pour enquêter sur les allégations de gestes à caractère sexuel à l'endroit d'une plaignante de 17 ans. Les résultats de l'enquête ont été présentés au pape au début du mois de mai. À la lumière des faits examinés par le juge Denis, ce rapport ne permet pas d'identifier quelques gestes d'inconduite ou d'abus de la part du cardinal Gérald C. Lacroix. En conséquent, une procédure canonique plus poussée n'est pas envisagée, peut-on lire dans le communiqué du Vatican. Le cardinal Lacroix aurait pu subir un procès si la vraisemblance des frais... Oh là là, si la vraisemblance des faits avait été établie, ce qui n'est pas le cas à en croire l'enquête du juge Denis, dont les résultats ont été dévoilés en avant-midi. En avant-midi, après mardi. L'enquête est incomplète. Le juge Denis a rappelé que la plaignante a refusé de le rencontrer et de lui fournir une déposition, ce qui a limité sa cueillette d'informations. J'ai dû me rabattre sur la revue de presse de janvier 2024, maintenant en grande partie du cabinet d'avocats de la demanderesse. Le recours à ces documents n'était certes pas la preuve idéale, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour tenter de comprendre les reproches faits au cardinal Lacroix. Le juge dit avoir consulté les archives et des membres du diocèse de Québec et de l'Institut séculier Pie X où a travaillé le cardinal Lacroix. Suite à ça, évidemment, le principal intéressé va vouloir revenir... Ça n'a pas de bon sens. Va vouloir revenir lui-même un peu plus à l'avant-scène. Blanchi en début de semaine, le cardinal Cyprien Lacroix invite la plaignante à porter plainte au criminel pour qu'un procès, en bonne et due forme, soit fait. La communauté a le droit de savoir si les faits qu'on me reproche ont lieu ou non et je souhaite faire entendre mon témoignage, a réagi le cardinal dans une vidéo diffusée par l'Église catholique de Québec ce jeudi. Je fais pas ça habituellement, mais là, c'est difficile à passer. On va faire une courte pause musicale au retour. On essaie de continuer cette émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. En même temps, c'était ça le titre de la toune. Fait que je trouvais juste ça drôle que ce soit le même titre, mais non, c'est tel quel ça. Quoique c'est au-dessus. La chanson est au-dessus, ça aurait peut-être été intéressant au jeu. Mais bon, ça arrive, des surprises comme ça. Il venait d'avoir 18 ans, version de Maxime Auguste sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ, en espérant que ça se passe bien pour le prochain bloc. Est-ce que de baisser ou d'enlever la taxe provinciale fera en sorte que le gaz serait moins cher? Évidemment que non, ou en tout cas pas tant que ça. Suite à la hausse récente du prix de l'essence, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, annonçait en 2022 qu'il allait suspendre la taxe albertaine sur les carburants à compter du 1er avril suivant. Comme par hasard, Éric Duhaime proposait la même chose à l'époque. Mais quand on faisait le test, parce qu'évidemment, ça revient encore aujourd'hui, Pierre Poilievre n'arrête pas de dire qu'il va couper toutes les taxes qui existent ou qui ne font pas son affaire... Et on l'a vu également au Québec. Bon, évidemment, Pierre Fitzgibbon est arrivé en disant qu'il allait enquêter, voir si le prix de l'essence était vraiment plus cher. Le résultat des courses, effectivement, le prix de l'essence est beaucoup trop cher. Mais est-ce vraiment à cause des taxes? Dans le Policy Opinion Politique, Policy Opinions, Luc Godbout s'est intéressé à la question et a décidé de décomposer le prix de l'essence à Montréal. Et les chiffres sont probablement encore très, très bons, même si ça fait un an et demi que l'article est paru, mais quand même. Au 8 mars 2022, le prix de l'essence à 1,97 à Montréal contenait 1,31 avant taxe. Les taxes que l'on rajoute, la fameuse taxe carbone qui est de 0,84 sous, la taxe sur l'essence fédérale de 10 cents, la taxe sur l'essence du Québec de 19 cents, la taxe Montréal de 3 cents, la TPS 9 cents et la TVQ 17 cents. Mettons que du jour au lendemain, on enlève le 19 cents de la taxe sur l'essence du Québec. On arrive à un montant de 1,78 $. L'essence est encore chère. On enlève la TVQ. L'essence est 1,61 $. 62. 63. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons-y pour une 62. Je sais que mon calcul, j'ai comme un doute. Là. 1,97, on enlève 17 cents, 1,80, on enlève le 19 cents, 1,61. Voilà, 1,61. Donc, l'essence, il y a 2 ans, à presque 2 $, revient au prix où on est en ce moment. Si on est chanceux, dans certaines régions du Québec, à peu près ça, entre 1,60 et 1,65. Sauf que là, à ce 1,60, 1,65, là, on invoque n'importe quel conflit, l'essence d'été, d'hiver, on rajoute le transport, peu importe. Et soudainement, l'essence revient à 1,70, 1,80. Même si on enlève les taxes. Parce que qui se met le plus d'argent dans les poches? C'est pas les gouvernements. C'est les raffineries. Et la marge des raffineries ne va qu'en augmentant. Avant la pandémie, parce que pendant la pandémie, évidemment, l'essence était beaucoup moins chère, parce que moins de demande, parce que pas de possibilité de se déplacer tant que ça non plus. Mais c'est pas tant que ça non plus. Tu sais, il n'y a pas une si grande différence. Et de toute façon, quand même qu'on enlèverait, comme ils ont fait en Alberta, retirer certaines taxes, ben en ce moment, l'essence n'est pas moins chère qu'elle l'était il y a 2 ans. Elle est à peu près au même prix, malgré les taxes en moins. Parce que quoi? Parce que les autres s'en sont mis dans les poches. Ce 10 cents-là, ce 17 cents-là qui se rajoute. Parce que, encore une fois, on peut donner n'importe quelle raison un peu niaiseuse et on monte le prix. Un congé férié, comme je le disais, la défaite de l'essence d'été et d'hiver qui avait été donnée il y a quelques semaines pour justifier l'augmentation de 20 cents. Ben, c'est complètement absurde. Et parce que c'est complètement absurde, ben il n'y a comme pas de y a comme, on dirait qu'il n'y a comme pas de juste milieu. Donc, quel devrait être le vrai prix? Environ ça, dizaines, quinzaines de cents de moins. La région de Québec, Capitale-Nationale, a particulièrement été touchée par ça, où justement l'essence à Québec coûtait réellement plus cher. L'essence dans Québec. Mais après ça, encore une fois, quand même qu'on redescend le prix de tout, pour combien de temps? Donc, de dire que le miracle passe uniquement par l'abolition de certaines taxes, c'est un peu court et ça ne sera pas suffisant. Le prix du carburant en hérite plus d'un, c'est sûr. S'il a beaucoup augmenté au cours de la dernière année, ce n'est pas à cause des taxes comme le montrent les tableaux. Voilà. La quasi-totalité de la hausse est due à la variation du prix de l'essence avant taxes. Parce qu'effectivement, ces taxes-là, le 17 cents de TVQ, le 9 cents de TPS, etc., même la taxe sur l'essence fédérale à 10 cents et la bourse carbone à 0,84 sous, c'est pas ça qui bouge. Cette taxe-là ne fluctue pas au gré des saisons et des congés fériés, encore une fois. C'est le prix avant taxe qui change, donc, c'est le prix des raffineries. Même si l'idée de réduire la taxe sur le carburant semble séduisante, le gouvernement fédéral et du Québec doivent la rejeter fermement. Il s'agit d'une fausse bonne idée pour au moins 3 raisons. Donc, les raisons de Luc Godbout, voilà. Professeur du département de taxation ici à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la taxation sur les finances publiques. Je traduis rapidement parce qu'étrangement, c'est en anglais ce bout-là. Ah, il est en français ici, voilà. pour son titre complet, titulaire du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques, ancien président de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise, voilà. Une suspension de taxes sur le carburant priverait le gouvernement de recettes fiscales sur la période déficitaire. Ici, quelque chose que le gouvernement du Québec ne peut pas se priver, c'est bien d'avoir une entrée d'argent après avoir donné des milliards en chèques et d'avoir baissé les prix de permis de conduire. Parce qu'évidemment, ça aurait été trop difficile de reprendre ce montant-là et de le mettre dans le transport en commun. Non, 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 il faut couper parce qu'il faut donner l'impression aux gens qu'on leur redonne leur argent pour qu'ils votent pour nous autres la prochaine fois. Il faut garder à l'esprit que sur le carburant au Québec, qui remonte à 1924, ça sert à financer le développement et l'entretien du réseau routier. Geneviève Guilbeault devrait aimer ça, être capable d'asphalter ses routes, donc qu'elle n'enlève pas la taxe de l'essence là-dessus. Blague à part. Raison non la moindre, c'est qu'une baisse irait à l'encontre des objectifs gouvernementaux à la lutte au changement climatique et la cible de 2030, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement Legault s'était trouvé une vocation environnementale à géométrie variable. Au Québec, l'inventaire des émissions montre que le transport routier constitue la principale source de gaz à effet de serre. Si globalement, les GES sont légèrement sous les niveaux de 1990, il en va autrement des émissions dans le secteur du transport qui émet davantage qu'en 2019 qu'en 1990, donc 36,5% contre 27,7% d'émissions de CO2, une hausse de plus de 30% en environ 30 ans. Il n'est pas particulièrement bon signe non plus. L'idée de réduire la taxe sur l'essence changerait le signal envoyé par son prix en favorisant ainsi le statu quo dans la lutte au GES, et ce malgré le fait que l'essence hors taxe soit plus chère qu'auparavant. Une réduction de la taxe sur les carburants compenserait davantage les plus gros pollueurs, ce qui est évidemment contre-productif sur le plan environnemental. Parce que quand même qu'on baisserait le prix de l'essence, peut-être est-ce que ça encouragerait justement les gens à vouloir utiliser davantage tout autre appareil connexe qui utilise du gaz, genre des quatre roues, genre des vélos, qu'est-ce que je dis là? Des bateaux. Tu sais, ce genre de transport-là qui demande la même essence, qui vont se limiter peut-être un petit peu plus parce que, justement, c'est plus cher. Quoique, si on a les moyens d'avoir un bateau, on a les moyens de le tinker. Mais tout ça pour dire que enlever la taxe sur l'essence, ça va être un petit plaster à court terme parce que, de toute façon, ces prix-là vont quand même augmenter pour la fête du travail, la fête nationale ou Noël, parce que c'est sûr que les gens vont se déplacer. Et encore une fois, il n'y aurait plus de taxes gouvernementales. Donc, le prix qui serait augmenté, ce serait à nouveau les pétrolières et ce serait encore plus flagrant, déjà que ça l'est. Donc, solution temporaire pour quelque chose qui va de toute façon augmenter, peu importe, taxe pas taxe. Parce que il n'est pas réglementé, ce prix du gaz-là. Ils peuvent mettre le prix du gaz au prix qu'ils le veulent. Et ça ne sera pas au prix coûtant et ni au prix le moins cher, c'est sûr. Ça a bien été. On revient pour un dernier segment ici même sur les ondes de CFA 88.3 et de CHIS 94.3. Vous écoutez la 299e édition du deuxième service. De retour au deuxième service, Valence à la manière de qu'on vient d'entendre en musique. Donc, ça a été deux décennies représentées cette semaine. Alexandre Desilets, Fancy Ghetto en ouverture de 2014 et Valence d'aujourd'hui 2024 pour... Le grand écart de 10 ans qu'est cette émission Le Réchaud, maintenant deuxième service. On va dans plusieurs directions et là, il venait d'avoir 18 ans, va être très à propos la semaine prochaine. Enfin bref. Cette semaine, on apprenait que, en plus de la Top Gun, payé 600 000 $ pour ses deux premières années d'un job qu'on n'est pas encore certain de ce qu'elle va faire, elle sera entourée d'un conseil d'administration dont la présidente sera, elle, payée un peu plus de 150 000, si ce n'est pas 150 000 $ en la personne de Christine Germain, des Hôtels Germain, qui va maintenant s'occuper de la santé au Québec. Rien de moins. Le gouvernement Legault poursuit dans sa mise sur pied de Santé Québec la nouvelle agence qui sera responsable de la gestion des opérations du réseau de la santé et des services sociaux. Ont annoncé le conseil d'administration cette semaine. Christine Germain, cofondatrice et coprésidente des groupes Germain, derrière les hôtels Le Germain, prend la présidence. C'est une entreprise familiale dont la qualité du service de la clientèle, la valorisation, le ministre Dubé a également sollicité personnellement Christine Germain pour s'occuper de la fonction. Elle a ensuite suivi le processus de recrutement du secrétariat aux emplois supérieurs. Semble-t-il, entre les branches également, que Christine Germain avait été par le passé approchée par François Legault lui-même pour être candidate de la CAQ, mais qu'elle avait refusé cette invitation-là. Mais on la retrouve quand même pas longtemps après en tant que présidente du conseil d'administration de Santé Québec. Christine Germain souhaite mettre à contribution son expérience et son expertise afin que les Québécois et Québécoises soient fiers de leur réseau de santé et de services sociaux et de leur expérience lorsqu'ils reçoivent des soins et de services. La vision de Mme Germain est complémentaire à celle de Mme Biron, dont la priorité est d'améliorer l'accès aux services pour la population québécoise. Eh bien, on se souviendra que Ricardo devait réformer les écoles primaires. Christine Germain des Hôtels Germain va gérer la santé. Pourquoi pas? L'ancienne présidente de la Commission spéciale des droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Régine Laurent, est aussi nommée. Ça fait un certain sens. Elle a un peu gravité autour du domaine de la santé. On compte également le chirurgien Inou Stanley Volant. C'est un chirurgien. C'est un peu normal. Qui est actuellement également médecin conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Lise Véro, une actrice de l'ombre qui a occupé plusieurs postes d'importance dans le réseau de la santé, dont celui de sous-ministre, souvent été appelée en renfort dans des périodes de crise, notamment pour l'épisode de Joyce Echaquan. On retrouve également l'ex-président de l'Ordre des pharmaciens du Québec et ex-député péquiste Diane Lamarre, qui va siéger au conseil d'administration, tout comme le médecin spécialiste en gériatrie David Lucier, docteur David Lucier, qui a notamment fait partie du comité pour mieux prévenir le déconditionnement des aînés créé par Marguerite Blais pendant la pandémie en 2020. Voilà. Hélène Chartier, ingénieure de formation, qui œuvre présentement comme administratrice de société. Anachi, détentrice d'un baccalauréat en commerce. Co-fondatrice de Dialogue Technologie de la Santé, où elle a aussi œuvré comme directrice d'exploitation de chef de produit. Bon, on mélange encore public et privé, des gens connus et moins connus. Christine Germain qui apparaît là-dedans. On ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'on veut gérer ça comme une business. Et ça, François Legault aime beaucoup gérer ça comme une business. On verra. Et encore une fois, à quoi va servir ce CA-là pour Santé Québec? Santé Québec, de ce qu'on comprend jusqu'à maintenant, va juste gérer les 400 000 employés. Mais après ça, ça va-tu être possible? Est-ce qu'une directive donnée à Montréal va être aussi efficace que sur la Côte-Nord ou en Gaspésie? Évidemment que non. On a été obligé de créer in extremis une équipe volante, donc des gens de Montréal qui vont être capables, ou de l'extérieur, qui vont être capables de s'envoler sur la Côte-Nord lorsque eux auront besoin, parce qu'ils manquent de personnel, justement. Tandis que, on voudrait sur la Côte-Nord avoir les employés permanents, mais ce n'est pas facile. Le recrutement ne se fait pas de manière évidente pour des régions éloignées, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est une solution temporaire à un problème beaucoup plus gros d'avoir des gens volontaires qui vont juste partir une fois de temps en temps et revenir par la suite? Évidemment. Est-ce que grâce à Santé Québec, ça va être une révolution et tout va être magiquement réglé? Ils ont 2 ans pour ça. Ou en tout cas, la principale intéressée, Mme Biron, qui, elle, est la grande manitou de cette grosse patente à gosse-là de la CAQ, aura ce mandat-là de régler le plus vite possible tous les problèmes. Mais ce n'est pas chose faite. La santé, c'est un énorme paquebot. Et de tout mettre, ou plutôt de que Christian Dubé et la CAQ garochent tout ça sur le petit comité à côté en disant « C'est maintenant eux autres qui vont répondre de tout problème. » Est-ce réellement la solution? Ça sera évidemment à découvrir éventuellement, mais pour l'instant, ça demeure. Les sceptiques restent énormément présents dans la salle, c'est bien certain. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette émission de la dernière fin de semaine de mai. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 80.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Restez bien branchés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 300e service. À la semaine prochaine. Salut.